Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, destination le sud de la France, à Marseille, où le magnifique musée Le Mucem accueille actuellement une grande exposition consacrée à Jean Giono. 50 ans après la mort de l'écrivain français, un hommage lui est donc rendu à quelques kilomètres de sa ville natale, Manosque, où il a vécu et écrit toute son œuvre, dont Le Hussard sur le toit, bien sûr, mais aussi Un roi sans divertissement, ou encore Le Chant du Monde, pour citer quelques titres. En fin d'émission, Emmanuel Lambert, commissaire de l'exposition et auteur du livre Giono Furioso, récompensé par le prix Femina Essai, sera notre guide pour découvrir l'exposition. Mais pour commencer, nous allons encore plus au sud, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. C'est là que vit notre invitée, l'écrivaine Hajar Bali. Dramaturge, nouvelliste, elle vient de publier son premier roman intitulé « Écorce » qui paraît simultanément aux éditions Barzar et Belfond. Une saga familiale qui met en scène quatre générations que l'on suit une centaine d'années, de la colonisation à l'indépendance, de la Seconde Guerre mondiale au terrorisme, des personnages à la fois forts qui ont traversé les chaos de l'histoire, mais qui se sont aussi laissés enfermer dans le silence, les secrets et les mensonges. Une fiction qui questionne la mémoire, la transmission, le langage, et qui fait aussi écho au bouleversement que connaît depuis quelques mois l'Algérie. À l'occasion de la venue d'Hajar Bali pour le festival Maghreb Orient des Livres en ce moment à Paris, je reçois donc la romancière qui tout de suite nous lit un extrait de son livre « Écorce » Hajar Bali.
Il fait une matinée douce comme seul sait en offrir cette ville. Malgré les journées précédentes, écrasées d'une chaleur que de surprenantes pluies diluviennes ont provisoirement chassées. L'été est monstrueux quand même. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il refera chaud dans quelques heures. Fatima met de l'ordre, tandis que Mariam prépare le déjeuner. Nour ferme les yeux. Une odeur d'oignons, de tomates et de poivrons frits. Il va devoir se conformer aux us, déjeuner à 12h30, quitte à expédier son petit déjeuner. Le repas est comme toujours frugal, mais succulent. Quelques parts sont constituées à partir de deux tranches de foie d'agneau assaisonnées au cumin. Mariam en fait couler le jus équitablement sur chaque assiette. La journée passe tranquillement. On s'installe en face de la télévision. Seule Fatima suit assidûment son feuilleton préféré. Tandis que Mariam enfourche ses lunettes et se remet à la lecture de son roman, Les Alouettes naïves. Nour a un travail à finir. Sa recherche lui prend du temps. Sa mère appelle encore ça ses devoirs. Elle lui pose parfois la question « T'as pas de devoirs, toi ?» Il répond gentiment « Non ». Il sait qu'il est seul à se soucier de sa recherche, tellement loin des préoccupations de sa famille. Pour les femmes de la maisonnée, il n'est encore qu'un petit écolier, malgré ses 23 ans. Alors, il préfère leur consacrer son week-end, même si son cerveau est encombré de questions. Il aura le temps. Il aura le temps de se ruer à la bibliothèque dès dimanche matin pour se rattraper. Il ne sait pas faire autrement. Baya se fait servir son verre d'eau et entame alors le récit, toujours recommencé, de son enfance au village.
Bonjour Hajar Bali.
Bonjour.
Et merci d'avoir lu pour nous cet extrait de votre roman intitulé « Écorce » et où là, on a fait connaissance des quatre personnages principaux de votre récit. Nour, un jeune étudiant en mathématiques de 23 ans, et les trois femmes avec qui il vit, sa mère Mariam, sa grand-mère Fatima et son arrière-grand-mère Baya, 95 ans. Une famille dont on va découvrir au fil des chapitres l'histoire des années 30 à aujourd'hui. Est-ce que le point de départ de ce roman a été l'envie de faire le portrait de plusieurs générations en Algérie, avec évidemment en filigrane la question de la transmission dans un pays qui a connu beaucoup d'événements marquants entre la colonisation, l'indépendance, les guerres et le terrorisme?
Tout à fait, c'était mon intention de traverser donc ces 100 années à peu près de l'histoire de l'Algérie, mais à travers ces personnages ordinaires, on va dire, et qui vont subir ou être traversés par tous les événements que connaît l'Algérie. Et cette question de la transmission également de ce qu'on veut transmettre et des silences et des secrets qui ont jalonné aussi toutes ces périodes, et principalement dans cette famille.
C'est un roman qui dit aussi la force des femmes, à commencer par Baya, l'aînée, qui a été mariée à 14 ans, jeune mère, répudiée, mais qui va reprendre son fils qui lui a été enlevé et qui va se battre bec et ongles pour lui. Est-ce que c'est aussi, et peut-être d'abord, un livre sur l'amour maternel ?
Essentiellement sur l'amour maternel qui peut également être...
Enfermant.
Enfermant, oui, tout à fait. Qui peut être un empêchement justement à s'émanciper, quoi. Et bon, voilà, Baya est un peu la fondatrice, on va dire, de sa petite dynastie, quoi. C'est elle qui va tout inventer. Elle n'a que 14 ans, elle est enfant encore, mais elle a déjà une grosse responsabilité, celle d'élever toute seule cet enfant qu'elle a enlevé, avec lequel elle a fui. Et Baya, donc, je disais, c'est un peu elle qui va construire son récit, le récit de sa famille, à sa façon, et qui va être toujours inquiète par rapport à tout ce qui est en dehors de son petit nid, qui va être toujours là à chercher à protéger les siens. Et donc, dans cette folie qu'elle met en branle, elle va peut-être parfois, souvent, empêcher toute velléité à s'émanciper ou à sortir des normes qu'elle-même a établies.
Mais en même temps, c'est vrai que cet amour maternel, on le voit, lui donne des ailes, puisque elle agit comme une rebelle, finalement.
Absolument.
Elle n'a que 16 ans, on est dans les années 1935-37. À cette époque, c'était pas facile pour une jeune Algérienne d'avoir ce courage. Est-ce que c'est ce que vous vouliez aussi souligner avec ce roman à Jarbali?
Mais oui, je pense qu'à toutes les époques, les femmes, qu'elles soient jeunes ou pas, ont été plus lucides et capables souvent de gros sacrifices dont on ne rend pas compte finalement assez, je pense. Et voilà, donc oui, pour moi, elle s'est battue, elle était rebelle. Et en même temps, voilà le paradoxe, une fois qu'elle arrive à réaliser, à prendre conscience, elle est consciente de toutes les pressions qu'elle subit et des violences, elle-même va tout faire pour protéger justement ce qu'elle a acquis et en faire un axiome de vie, quoi.
C'est vrai que cet amour va aussi enfermer les enfants.
Oui.
Ainsi, Baya va choisir Fatima pour qu'elle devienne la femme de son fils.
Oui, qu'elle
Haroun.
Va éduquer, d'ailleurs.
De même que Kamel, le petit-fils, n'aura pas non plus le choix d'épouser celle qu'il aime. Donc, est-ce qu'il faut comprendre à Jarbali que la maternité, ou ici, ces femmes deviennent des forteresses, mais aussi des prisons?
Exactement. C'est tout le paradoxe que j'ai voulu chercher, quoi. J'avais le désir, à travers ce roman, de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, à toute génération, on arrive à une impasse qui va faire que, probablement, c'est ce qui est arrivé, qu'il y ait un éclatement. C'est-à-dire que c'est comme si toutes les ruptures ne peuvent se faire que violemment ou à l'encontre même des êtres qu'on aime. C'est ce que il m'a semblé constater et que j'ai voulu transcrire dans ce roman.
Et de fait, les hommes, les maris, les fils, finalement, ils vont disparaître peu à peu dans les tourments de l'histoire, tués, emprisonnés, torturés, injustement accusés, dans des événements que vous relatez à Jarbali, mais pas dans un ordre chronologique, puisque les chapitres glissent de 2016 à 1935, et puis 2006, 1984, 1938, 1955, 1962, bien entendu,
oui.
Et 1945 aussi, avec le massacre du 8 mai à Sétif.
Oui.
Des dates clés que vous avez volontairement dissociées de la linéarité du temps. Pourquoi, Hajar Bali ?
Ce que je voulais, c'était rendre compte du parcours de la mémoire, qui n'est pas linéaire, en fait. La mémoire, ou même le récit que fait Baya tout le long de son histoire. Et donc la mémoire et également la pensée, pour moi, ne sont pas linéaires. Donc il me paraissait logique que par exemple, avec des recoupements ou des associations d'idées, on peut sauter dans l'esprit d'une époque à l'autre. Je pense qu'aucun vivant n'est en réalité dans la linéarité, dans sa mémoire du moins. Donc j'ai voulu aussi, le roman est entièrement construit dans cette idée-là, qu'on doit suivre les sinuosités d'une pensée qui peut, elle aussi, apparaître à un moment où on ne s'y attend pas, sans même qu'on veuille la prononcer. D'où la difficulté à rendre une parole objective, cohérente, à tout moment. C'est pourquoi aussi les personnages sont perdus dans une pensée intérieure qui est toujours là et qui souvent contredit ce qu'ils peuvent affirmer. Et donc les dates sont là, évidemment, comme des repères aussi pour le lecteur, parce que j'ai pensé qu'il fallait absolument un petit peu jalonner le roman de quelques dates. J'ai pensé aussi une fois, à un moment donné, à ne mettre aucune date, mais ça aurait perdu un petit peu le lecteur.
Surtout le lecteur qui n'est pas algérien, parce que là, vous faites référence à des événements propres à l'histoire de l'Algérie.
Oui, oui. Mais bon, ça aurait pu être, la guerre d'indépendance est plus ou moins connue dans les esprits. Mais effectivement, vous avez raison, il y a d'autres événements qui sont propres à l'Algérie et aussi à cette famille, quoi, des événements qui les concernent.
Et donc, en effet, c'est comme le cheminement labyrinthique de la mémoire.
Oui.
Et on entend chaque personne, en tout cas leur voix intérieure,
oui.
raconter leur histoire, qui se croisent ou pas, qui sont parallèles
oui.
ou pas. Et au milieu, Nour, ce jeune garçon qui, de fait, est le seul mâle de la famille, étouffé par cet amour et puis par ses non-dits. Parce que c'est bien ça aussi le cœur de votre roman, me semble-t-il, Hajar Bali, et vous l'avez déjà évoqué. Il y a cet indicible qui ne se transmet pas, en l'occurrence, mais qui passe de génération en génération. Est-ce que ces non-dits, selon vous, sont particulièrement présents, justement, dans les familles algériennes ou pas ?
Absolument, ils sont présents, oui. Ces non-dits sont aussi une forme de transmission. Parce qu'on transmet justement le fait d'être le silence, on transmet l'absence de parole. Et c'est ça qui mène justement à cette impasse dans laquelle va se retrouver cette famille. Et bien sûr, la société algérienne, me semble-t-il, est confrontée à ce genre de situation. Ouais.
Et pour quelle raison ?
Eh bien, c'est ça que fouille le roman, c'est-à-dire comment une parole première, ici en l'occurrence c'est celle de Baya, qui peut aussi être manipulatrice, aimante, et donc, si vous voulez, l'amour empêche l'être aimé de se révolter ou de se mettre à l'encontre de ce que désire celui qu'il aime. Donc Baya, en se mettant dans ses dissimulations ou dans ses silences, même s'ils sont perçus, même s'ils sont transmis, va transmettre aussi cet état-là. Et pour en sortir, il me semble que le seul moyen est de briser un petit peu les murs, quoi. Et c'est vers cela qu'essaye d'aller Nour avec sa bande d'amis dans le roman, puisqu'il parle de désaxiomatiser la pensée. Et plus généralement d'ailleurs, c'est par rapport au langage que je m'interroge, au langage en général qui est figé, souvent qui empêche justement que la pensée qui est beaucoup plus lente à venir, qui ne montre pas toute la complexité que pourrait avoir une pensée humaine. Et voilà, donc c'est un peu aussi la quête que j'ai menée, enfin la recherche que j'ai menée pour pouvoir écrire ce roman.
Oui, et c'est un sacré défi que d'écrire justement le silence et les non-dits.
Oui.
Puisqu'à priori, évidemment, c'est
Oui.
impossible, mais c'est effectivement la quête de l'écrivaine que vous êtes, Hajar Bali, avec en effet cette question de l'axiomisation. Alors, on va s'y arrêter une seconde parce que c'est vrai que vous êtes mathématicienne de formation,
Oui.
une science que vous avez enseignée longtemps à l'université. Il se trouve que Nour est un étudiant en mathématiques, donc il a aussi une vision très scientifique, rationnelle du monde. En quoi les mathématiques vous permettent ici à Jarbali de réfléchir sur la question du langage?
En mathématiques, on apprend déjà que la ligne droite n'existe pas en réalité et qu'il faut toujours être dans la critique et dans la remise en question. C'est-à-dire que l'axiome est là en réalité pour être rediscuté. Et
Qu'est-ce
à
qu'un
chaque
axiome?
un axiome, c'est une vérité établie qui n'est pas démontrable, mais qui est admise et qui est établie comme un fondement d'une théorie. Comme par exemple de dire que deux droites parallèles ne se coupent jamais. Mais si ce paradoxe est remis en question, ça peut permettre d'inventer un autre monde. C'est ce qui s'est passé avec la géométrie hyperbolique qui a détruit la géométrie d'Euclide, justement, par exemple.
Si vous le dites, je vous crois. Et vous, Hajar Bali, qui êtes au début dramaturge, nouvelliste, qu'est-ce que vous apporte le roman en plus de ces deux arts qui déjà travaillent le dialogue, le fractionnement?
Oui, en fait, c'est le temps. Le temps, le souffle. Le roman permet de prendre son temps, j'allais dire. Parce que dans l'écriture du théâtre, ce qui m'avait manqué, c'était l'aspect narratif, même si on sait que maintenant que même un roman peut être mis en scène au théâtre. Et donc, en passant à la nouvelle, j'ai pu donc en profiter pour tester une forme de narration. Ce qui était intéressant pour moi dans les nouvelles, c'était que j'avais aussi expérimenté plusieurs formes. Et celle que je voulais défendre est apparue pour moi dans l'écriture du roman. Et avec cette envie de traverser toute cette longue période d'histoire, il me fallait prendre du temps et de l'espace. La forme du roman me paraissait être nécessaire à ce moment-là.
Et un lieu où vous pouvez explorer aussi cette question donc du non-dit et comment échapper au non-dit par d'autres formes artistiques
Exactement.
qui sont la musique pour l'un des personnages, la
La poésie,
poésie et aussi l'écriture, puisqu'il y a une jeune femme dont on va faire la connaissance qui prend beaucoup de notes, jeune femme dont on sent que c'est une romancière en puissance. Même si d'ailleurs elle ne s'autorise pas à ce que sa vie intérieure télescope son écriture,
Ce qu'elle croit, en
voilà,
fait.
j'y comprends une forme de refus du roman autobiographique. C'est aussi votre cas, Hajar Bali.
C'est pas mal, oui, tout à fait. Enfin, je ne pense pas que mon histoire soit passionnante, je dirais, à raconter. Mais mon environnement, l'histoire de toutes les personnes que j'ai pu connaître dans ma vie, est totalement présente aussi, remodelée, comme je le dis, et reprise. Je crois qu'on ne vit qu'à partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait. Le narrateur est important aussi comme personnage. Puisque c'est lui qui va un petit peu analyser, scruter, critiquer, voire se moquer des personnages et de leur tricherie.
Elle va déconstruire un peu
Voilà, oui.
les mythes de la famille.
Exactement, oui. Donc je m'en sers aussi pour ça.
Donc vous le disiez à Jarbali, une traversée de l'histoire. Il se trouve que votre roman se déroule aux alentours des années 2016, mais c'est vrai que depuis un an, l'Algérie connaît un grand mouvement historique avec ce soulèvement populaire, les gens qui vont protester dans la rue, donc il y a une vraie libération de la parole. Comment est-ce que vous vivez ce mouvement qu'on appelle Arak?
Et je suis très heureuse, enfin très fière de de cette révolution qui est née, donc de bientôt, ça va faire un an. Parce que ce que je vois dans les manifestations auxquelles je participe chaque vendredi, c'est justement ce désir d'inventer quelque chose de nouveau, de sortir de la pression et de la violence subie par ceux qui nous ont toujours raconté qu'ils nous avaient libérés. Peut-être qu'il y avait une légitimité à avoir ce discours, mais maintenant, si vous voulez, il y a cette nouvelle génération qui a compris que son seul salut, était dans le refus de se soumettre toujours indéfiniment à cette dictature qui les mène, quoi, qui prétend en plus faire tout ce qu'elle fait pour le bien de son peuple. Voilà, je vois comme une similitude dans le roman avec ces personnages, ces jeunes personnages qui passent leur vie, qui passent leur temps ils ont même l'intention de créer une revue, donc qui veulent désaxiomatiser, c'est-à-dire qui veulent changer le langage, changer les formes et aller vers quelque chose qu'ils veulent inventer eux-mêmes.
Vous aviez un peu anticipé ce changement, ou c'est parce qu'il était déjà présent ?
Moi, je pense qu'il était latent, qu'on ne savait pas encore vraiment à quoi ça allait mener, mais c'était visible qu'on allait vers une sorte d'impasse qui était justement due à tous ces silences, tous ces et oui, ouais, je crois que c'était déjà là.
Donc votre roman familial, c'est un peu la métaphore de l'Algérie d'aujourd'hui.
Apparemment, oui. On s'en rend pas compte hein, au moment où on écrit tout ce qu'on écrit, mais voilà. Ou alors peut-être que inversement, la lecture du roman avec le regard qu'on a aujourd'hui, qui met en lumière des choses qui peut-être n'étaient pas consciemment voulues, quoi. Et c'est ça qui est formidable en fait. C'est comme si on était tous, enfin pas seulement les romanciers ou les artistes ou ce que je dis d'ailleurs dans le roman, comme s'il y avait une voix ou une pensée qui a précédé l'action et qui était là, quoi, qui nous a précédés, qui nous a emmenés vers ce geste libérateur.
Avec donc un nouveau souffle
en
Algérie,
souffle, complètement.
À la fois démocratique pour le peuple, mais un nouveau souffle artistique et littéraire.
Tout à fait. Ça, c'est,
vous le sentez,
c'est,
ça?
Ah oui, c'est visible partout. Il y a beaucoup de créations en musique, en littérature, je vois aussi beaucoup de livres qui y paraissent. Certains sont dans l'analyse ou dans l'histoire, mais d'autres sont vraiment dans une recherche de langage. Musique, art plastique, poésie, chant, enfin bref, tout ça on le découvre, on le voit. Et chez ces jeunes qu'on a pu traiter de racailles, quoi, et qui en fait montrent leur capacité à être des seigneurs, enfin c'est comme ça que je les vois.
Et pour revenir au titre de votre roman, Hajarb Ali, il faut casser l'écorce.
Absolument. L'écorce, c'est aussi une enveloppe. Et cette enveloppe peut protéger un temps, mais à un moment, il faut la casser, il faut la briser pour découvrir ce qui se cache en dessous, ces vies, ces multitudes, comme je dis, de vers qui rongent quand même et qui finissent finalement par faire éclater le bois, quoi. Et peut-être la renouveler. Il est possible qu'après ça, d'autres écorces se réapparaissent. Mais voilà, c'est la vie qui insiste, qui vient, qui brise. Ouais.
On va rester sur cette très belle phrase, la vie qui vient et la vie qui brise.
Oui.
Merci beaucoup Hajarb Ali.
Merci.
Je rappelle donc le titre de ce premier roman, Écorce au pluriel.
Oui.
Et qui est apparu aux éditions Belfond en France et Barzar en Algérie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous sommes des hommes, tout simplement, et des femmes, avant d'être des provençaux. Par conséquent, n'importe qui peut les décrire. Et quand Shakespeare décrit les passions dans ses drames, il décrit les passions provençales, tout aussi bien que les autres.
Et c'est avec la voix de Jean Giono que nous poursuivons cette émission et cet extrait d'un documentaire diffusé au MUCEM dans le cadre de cette exposition à Marseille qui, jusqu'au 17 février, salue la mémoire de l'écrivain disparu il y a 50 ans. Un auteur dont nous parlerons bientôt plus longuement dans Littérature sans frontières, avec sa fille, Sylvie Giono, et à l'occasion de la parution dans la Pléiade des œuvres de son père. Mais ici, voici un premier aperçu de l'homme, de sa vie et de ses livres, avec Emmanuel Lambert, qui à la fois vient de publier un récit, une lettre ouverte presque, intitulée « Giono Furioso » aux éditions Stock, récompensée par le prix Femina Essai, et qui est aussi commissaire de cette exposition dont elle nous raconte la genèse.
Au début, ça a été une certaine frayeur quand j'ai mesuré l'ampleur de la tâche. Parce que lorsque Jean-François Chounier, le président du MUCEM, m'a proposé ce commissariat, j'avais lu quelques livres de Giono, mais j'étais loin d'avoir mesuré toute la production effrénée de cet écrivain. Donc au début, j'étais un peu effrayée. Ensuite, je me suis affrontée à ce à quoi on s'affronte dans toutes les expositions littéraires, c'est-à-dire comment montrer une œuvre, comment exposer un style, comment faire percevoir un imaginaire. Ce sont des choses compliquées à faire. Et il y a une particularité, c'est comme je suis moi-même écrivaine, j'aborde ça en écrivain et non pas en conservateur ou conservatrice de musée ou en historien ou historienne de la littérature. Alors une fois que tout ça a été bien maturé, il m'est apparu qu'il y avait plusieurs fils à tirer. Le fil attendu, chronologique, tous les manuscrits, toute la production, le contexte historique, le contexte biographique. Le fil de l'imaginaire, les lectures de Giono, les peintres qui l'ont influencé, ses amis peintres, les choses auxquelles il a réfléchi. Et puis il y avait la part évocatoire, qui est la part d'interprétation, que j'ai traité d'une part dans mon livre Giono Furioso, qui est ma vision et ma lecture du trajet de cet homme et de cette œuvre, et qui a été confié dans le catalogue de l'exposition à d'autres écrivains et dans l'exposition à des artistes contemporains qui ont fait des installations, ce qui, je l'espère, permet au public d'éprouver une expérience qui n'est pas l'expérience de la lecture, mais qui est une expérience qui rend la littérature non pas figée mais vivante. Donc je ne sais pas si c'est une exposition littéraire, mais j'espère que c'est une exposition de littérature.
C'est un auteur qui a été à la fois beaucoup lu, peut-être un peu oublié, mais qui est toujours d'actualité 50 ans après sa disparition. Selon vous, qu'est-ce que l'œuvre de Giono a de contemporain et en quoi elle peut toucher un jeune public aujourd'hui qui peut y trouver une forme de modernité ?
Il y a une chose qui m'a troublée. C'est l'écho des préoccupations écologistes aujourd'hui avec les textes militants de Giono dans les années 30. Mais attention, hein, dans une écologie radicale, pas une écologie de compromis. Une écologie qui va avec le rejet de l'argent, c'est-à-dire qui dit que l'avidité dont l'homme fait preuve est en train de détruire tout le vivant autour. Ça, c'est ce que Giono écrit dans les années 30 et c'est ce qu'on voit surgir aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'est très intéressant de voir qu'en fait, ce sont les mêmes problématiques.
Mais le bonheur, je crois, après pas mal d'expériences, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui, si on y fait attention, composent le bonheur précisément. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation, tout dans la journée, une plume qui marche bien, un travail qui fonctionne très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur.
Ici se referme Littérature sans frontières, réalisée par Pauline Leduc. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr. en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro du magazine, vous pouvez aussi vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée, iTunes, Google Podcast ou encore Podcast Addict sur votre smartphone et nous laisser même un commentaire. D'ici là, bonne semaine. Je vous retrouve vendredi prochain sur RFI pour une nouvelle rencontre littéraire. L'épopée des musiques.